Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous pouvons dire que les trois piliers de la vie chrétienne sont la foi, l'amour et l'espérance. Dans la nouvelle série que nous commençons aujourd'hui, nous allons réfléchir au sens de ces trois qualités en nous penchant sur la première lettre de l'apôtre Paul écrite à l'église de Thessalonique. D'abord, Magali va lire les trois premiers versets de cette lettre et ensuite, André nous rejoindra pour nous faire part de ses réflexions.
De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tout en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père.
Merci Magali. Et bonjour André, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous. Pour commencer cette nouvelle série, et avant de me lancer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de comprendre les débuts de l'église de Thessalonique et les raisons pour lesquelles Paul a écrit à ses chrétiens.
Alors, que savons-nous sur l'origine de cette église?
D'abord, il faut savoir que la ville de Thessalonique se trouve en Grèce. Or, au 1er siècle, au temps de l'apôtre Paul, la Grèce entière, et donc cette ville, faisait partie de l'Empire romain. La ville de Thessalonique existe encore de nos jours. C'est une ville importante. Nous savons également que Jésus-Christ a choisi l'apôtre Paul pour qu'il accomplisse une mission, celle d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile à tous les peuples du bassin méditerranéen. C'est pourquoi Paul se rendait de ville en ville. Il y annonçait le message de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité. Et il implantait des églises rassemblant quiconque était convaincu que Jésus, le Seigneur, est digne de notre adoration, de notre confiance et de notre obéissance. Le livre biblique, les Actes des Apôtres, nous apprend dans quelles circonstances l'église de Thessalonique est née. Je vais à présent céder la place à notre lectrice qui va nous lire le récit relatant les débuts de cette église.
Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis, ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs.
Merci. Je m'aperçois que l'église à Thessalonique a connu un début difficile, car elle a dû faire face à une vive opposition qui a abouti à un procès mené en présence de magistrats. Puis, pour se protéger, Paul a dû quitter la ville. Il n'a donc pas pu rester dans cette ville très longtemps.
Non. On pense que Paul n'est resté à Thessalonique que 2 à 3 semaines. De ce fait, il s'est inquiété du sort de ses nouveaux croyants qui faisaient leur premier pas dans la foi dans un contexte assez hostile. Paul craignait en effet qu'ils n'abandonnent la foi tant l'opposition était forte et l'intimidation bien présente. Du coup, Paul a envoyé son collègue Timothée à Thessalonique pour s'assurer de l'état de la situation et surtout de la santé spirituelle des croyants qui s'y trouvaient. Toutefois, Timothée est revenu de cette visite avec un rapport extrêmement encourageant, car les nouveaux croyants tenaient bon malgré la persécution. Bien sûr, comme chacun d'entre nous, ils avaient besoin de progresser en maturité et ils se posaient des questions qui nécessitaient des réponses, mais le plus important, c'est qu'ils restaient fermes et fidèles dans leur foi en Jésus-Christ. Suite à ces bonnes nouvelles, Paul décide de leur écrire la lettre que nous étudions aujourd'hui, car il veut les encourager, les instruire aussi. Alors, il commence sa lettre en exprimant sa reconnaissance pour l'œuvre que l'Esprit de Dieu accomplit dans leur vie. Paul rappelle leur foi, leur amour et leur espérance, ces trois piliers de la vie chrétienne. Chers amis, si quelqu'un devait rédiger un résumé sur votre vie, parlerait-il en bien de votre foi, de votre amour et de votre espérance? L'objectif de la série que nous commençons aujourd'hui est justement de vous aider à mieux comprendre ces trois qualités, la foi, l'amour et l'espérance. Nous désirons vous conduire vers une maturité de foi. Nous souhaitons rendre votre amour pour Jésus, pour vos sœurs et frères en Christ et pour votre prochain plus fort. Nous voudrions fortifier votre espérance, bien que vous soyez plongé dans un monde bien difficile et malheureux. Nous allons prendre notre temps. Et plusieurs émissions seront consacrées à chacune de ces qualités.
Merci André pour cette introduction. Je constate que l'apôtre Paul emploie des noms pour expliquer chacune de ces qualités. Il parle par exemple de l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance.
Oui, Yann, ces mots nous aident à comprendre le sens que Paul donne à la foi, l'amour et l'espérance. Et nous découvrirons leur importance dans les émissions à venir.
Merci. Et puisqu'il nous reste quelques minutes, nous allons entrer dans le vif du sujet et commencer par parler de la foi, ou bien, comme Paul l'exprime, de l'œuvre de votre foi. Pour moi, le fait que Paul semble associer les œuvres à la foi m'étonne et suscite des questions importantes.
Je pense savoir où vous voulez en venir.
Oui, la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par la foi, et non pas par les œuvres. Autrement dit, le pardon de nos péchés, notre réconciliation avec Dieu, la vie éternelle, repose sur la croix de Jésus-Christ et la grâce de Dieu. Nous jouissons de ces bénédictions parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, et non parce que nous accomplissons des œuvres quelconques.
C'est effectivement une question importante, Yann, et je suis entièrement d'accord avec vous. Les grandes bénédictions que vous venez d'énumérer, et bien d'autres encore, sont des dons de Dieu, des dons que nous recevons lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Nos bonnes œuvres ne contribuent en rien à notre salut. Elles ne peuvent pas effacer notre culpabilité devant Dieu. Seul Christ peut le faire, et ceci grâce à sa mort sur la croix. Imaginez que vous avez accumulé une dette énorme de quelques millions de CFA auprès d'un créditeur, alors que vous ne gagnez que quelques centaines de CFA par jour, qui couvrent à peine les besoins essentiels de votre famille. De ce fait, vous ne parviendrez jamais à rembourser cette dette. Il ne vous reste alors qu'un seul espoir, celui que votre créditeur décide d'annuler votre dette par pure bonté. Le poids de nos fautes, de nos échecs moraux et spirituels, de notre culpabilité s'accumule devant Dieu telle une dette énorme et, par nos propres efforts, nous n'avons aucun moyen d'effacer cette dette. Comme je l'ai déjà affirmé, seul Christ peut l'annuler et il l'a annulé au prix de sa mort sur la croix. Et parce que Jésus-Christ a ainsi obtenu notre pardon auprès de Dieu, nous pouvons vivre par la grâce cette grande bénédiction qui consiste à le connaître dès maintenant et pour l'éternité. Alors oui, et l'apôtre Paul l'a écrit dans sa lettre à l'église d'Éphèse, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, penchons-nous à présent sur la question qui nous préoccupe, à savoir, qu'est-ce que Paul voulait dire en exprimant sa reconnaissance sur l'œuvre de leur foi?
Oui, et quelle est votre réponse?
Alors, en prononçant ces mots, l'œuvre de votre foi, Paul aborde un sujet bien particulier. Il ne répond pas à la question « comment être sauvé ?», mais plutôt à celle-ci. Que devons-nous faire puisque nous avons reçu le salut de Dieu? Ou encore, pour nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, comment devons-nous vivre par la foi au quotidien? Et Paul explique que la foi en Jésus-Christ doit tout naturellement conduire à la pratique de certaines œuvres. Si nous affichons par la foi notre loyauté à Jésus, le Seigneur, cette loyauté s'exprimera dans notre vie de tous les jours. Elle se verra dans notre attitude, notre conduite et nos paroles aussi. Et Paul résume ses bonnes dispositions en parlant de l'œuvre de la foi. Prenons l'image suivante. La foi est comme un jeune arbre planté. Mais alors, pourquoi planter un arbre fruitier, comme un manguier par exemple? C'est en vue d'obtenir du fruit, des mangues dans ce cas précis. Autrement dit, notre foi en Jésus-Christ doit produire du fruit, tout comme un manguier va porter des mangues. De toute évidence, les fruits de la foi étaient évidents dans la vie des croyants de Thessalonique. C'est pourquoi Paul exprime sa reconnaissance quant à l'œuvre de leur foi. Alors, toute personne qui prétend avoir donné sa vie à Jésus, mais ne porte aucun fruit, peut susciter le doute et on peut se poser des questions sur l'authenticité de sa foi.
Merci André de nous avoir éclairé sur cette question importante. Mais pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette œuvre de foi dont parle l'apôtre Paul?
Bien sûr, et j'y répondrai lors de nos prochaines émissions, car à présent le temps nous manque. Je peux néanmoins vous donner un petit avant-goût.
Merci.
Le thème de l'œuvre de la foi est vaste, et je me limiterai à quelques notions qui se dégagent du premier chapitre de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Je parlerai donc de trois fruits. D'abord, celui qui a mis sa foi en Jésus, le Seigneur, accueillera avec joie la parole de Dieu. Ensuite, celui qui a mis sa foi en Jésus, le Seigneur, se détournera des idoles pour servir le seul Dieu vivant et vrai. Enfin, celui qui a remis sa foi en Jésus, le Seigneur, deviendra un bon et fidèle témoin de l'Évangile.
Merci André. Nous avons hâte d'en savoir plus.
Merci Yann. Je dis au revoir à tous et à bientôt.
Chers amis, nous espérons donc vous retrouver lors de notre prochaine émission Espérance aujourd'hui. En attendant, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.